Bonjour. Aujourd'hui, on continue notre troisième cours sur raconter les lois concernant l'outil. La dernière fois, on avait commencé à analyser les lois concernant la première sorte de Moukhtse. C'est Moukhtse Mahmat, Kishmartoleissour, un ustensile dont l'utilisation est d'habitude interdite Shabbat. On va finir avec un dernier objet qui a ce statut, c'est les tfilines. Est-ce qu'on a le droit de mettre des tefilines de Shabbat? Alors, ça dépend. De toute façon, c'est interdit, mais ça dépend quel interdit on transgresse. Si quelqu'un a l'intention de faire la mitzvah des tefilines et les met Shabbat, alors ils sont interdits de la Torah, grave de Baal Tosif. Il y a une interdiction dans la Torah, dans les 613 lois de la Torah, on n'a pas le droit de faire des choses en plus, en tant que mitzvah. Quelqu'un met deux mezouzot sur le contour de sa porte. Les deux tefillines, vous me direz, ceux qui mettent Rabbeinu Tam et Rashi ensemble, d'après la Kabbalah, il faut mettre les deux tefillines. Rashi et Rabbeinu Tam, sur ces Rashi et Rabbeinu Tam, prend des petites tefillines. Comme ça dit Rabbeinu Ari. Les décisionnaires disent qu'il faut faire un tenaï, il faut faire poser une condition. Dire, si d'après la vérité, les tefillines de Rashi sont les vraies tefillines, alors je pense que je fais comme ça les tefillines de Rashi, et ceux de Rabbeinu Tam ne sont que des lanières de cuir. C'est pas la vérité, c'est ceux de Rabbeinu Tam qui sont vrais, alors je pense que je vais mettre ça avec les tefillines de Rabbeinu Tam, et les tefillines de Rashi sont comme des lanières de cuir. C'est une machloket. Alors, d'après Rashi, celui qui met comme Rabbeinu Tam n'a pas fait la mitzvah de tefillin. D'après Rabbeinu Tam, celui qui met les tefillin comme Rashi n'a pas fait la mitzvah. Néanmoins, la coutume est de mettre comme Rashi. Comme ça, la majorité des poskim me disent. Mais c'est bien que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est marqué, qui met les tefillin aussi de Rabbeinu Tam, pour pas qu'il arrive à la mabal, on dise, mon vieux, Tintin. D'accord? Rabbeinu Ari vient et dit, t'as rien compris, les deux sont obligatoires. Si on ne met pas les deux, on n'a rien fait. Pas qu'on n'a rien fait, mais on n'a pas fait le grand tikkun de la mitzvah de tefillin. Alors, on fait un troisième tenaï, troisième condition, et on dit, et si la mitzvah est d'après les deux, alors je pense que je vais d'après les deux. Comme ça, c'est certain que dans le ciel, on peut faire une condition comme ça. Si je fais la mitzvah, alors elle est comme ça, je considère que je pense faire la mitzvah de cette façon et pas de cette façon. Comme ça, c'est bien de mettre ceux qui peuvent arriver à mettre les deux tefillines à la fois, c'est bien, ça, puis d'après la Kabbalah, mais il faut faire cette condition. On l'a fait une fois par année, ça suffit. Pas besoin de faire tous les matins avant d'aller de les mettre. Une fois par année, je pense que toute l'année, quand je fais, ça sera de cette façon-là. Mais en tout cas, mettre les tefillines Shabbat, c'est interdit. Parce que là, c'est clair qu'on transgresse la mitzvah de l'interdiction de Baal Tosif. On n'a pas le droit de rajouter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un met les tefillines sans la Kavana, sans penser faire le tefillin? Néanmoins, le Zohar dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous avons toujours sur nous deux signes. Deux signes. Un signe, c'est la Brit Mila. Deuxième signe, c'est les tefillines. Shabbat, on a le signe du Shabbat. Or, si quelqu'un met maintenant le signe du tefillin alors qu'il a déjà le signe du Shabbat, c'est comme si les Mezalzel ne prend pas en considération le signe du Shabbat. Donc, c'est interdit aussi de le faire, même sans penser faire la mitzvah. Je ne pense pas faire la mitzvah. Mais attends, mais quand je pense le tefillin, le signe, il est sur moi. Qu'est-ce que tu mets un signe maintenant alors que tu as déjà le signe du Shabbat? C'est comme si, en quelque sorte, tu aurais des lumières spirituelles, ça fait des interférences entre les deux. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Donc, et comme ça tranche le Shulchan Aruch, il dit que même si quelqu'un met le tefillin sans avoir la pensée de mettre le tefillin de Shabbat, c'est interdit parce qu'il est mezalzel, il ne prend pas en considération le hot, le signe du Shabbat. Donc, vu qu'il n'y a pas d'utilisation qui soit autorisée, en tout cas, l'utilisation habituelle du tefillin, elle est toujours Shabbat interdite, donc il est clair que le tefillin, c'est un kli, shemarto lesu, un ustensile dont l'utilisation est interdite du Shabbat. Qu'on a le droit d'utiliser pour une chose permise. J'ai le droit de prendre un marteau pour casser des noix. Quelle utilisation permise que je peux avoir d'un tefillin Shabbat? Casser des noix avec un tefillin, c'est pas très conseillé. Qu'est-ce que je peux faire avec un tefillin comme utilisation permise? Tout simplement, quelqu'un qui maintenant, il apprend une croix de tefillin dans le Shulchan Aruch. Il veut voir maintenant, il veut voir comment est-ce qu'on fait le nœud des tefillin. D'accord? Avec moi, une tefillin, regarde le nœud. Il n'a pas le droit de nouer, dénouer. D'accord? Regarde comment on fait. On lui dit, voilà, c'est une forme de yud. Il essaie de voir comment ça forme une folie. Alors, tu as le droit de prendre justement pour voir là l'utilisation. Comme j'ai le droit de prendre un crayon pour Shabbat, pour montrer à mon enfant où lire, c'est l'utilisation d'un ustensile interdit pour une fin qui est permise. Là, je peux utiliser le tefillin, bien que son utilisation habituelle est interdite, là, je l'utilise pour une utilisation qui est permise. Je ne connais pas d'autres utilisations permises du tefillin si ce n'est cela. D'accord? Oui. aucun problème de Maret Ein. Maret Ein signifie, donc pour que ceux qui comprennent pas l'hébreu, Maret Ein, c'est un certain interdit dans la Torah. On interdit de faire une chose, bien qu'elle est peut-être permise, de peur que les gens diront, ils vont croire que je fais un interdit. D'accord? Par exemple, ceux qui sont israéliens et qui vont passer. C'est une malédiction, d'accord, je vous souhaite pas. Ils vont passer les fêtes à l'étranger, ils doivent faire 2 jours de fête. Bien que normalement ils doivent faire un seul jour. Alors le deuxième, par exemple, ils doivent mettre des tefillines. Ils ne peuvent pas mettre des tefillines en public, ils doivent le mettre en cachette dans leur chambre. Et non plus, ils n'ont pas le droit de faire des melachot, des actions interdites le deuxième jour, de peur que les gens vont les voir. Moi, je te parle, pardon, de Shavuot, d'accord, Shavuot, d'accord, ou le huitième jour de Sukkot, ou le huitième jour de Tfilin. Même si quelqu'un est tout seul dans son appartement, interdiction. Parce que il y a une autre loi qui dit que tout ce que Chazal ont interdit à l'extérieur, ils l'ont interdit aussi, Bechadeh Hadarim, dans les chambres intérieures des chambres intérieures, d'accord. Tu vas dans une cave qui vient après 10 chambres intérieures, tu te caches là-bas, tu mets tous les cadenas, tu mets maintenant, tu allumes la lumière le deuxième jour de Yom Tov, c'est interdit, d'accord. C'est interdit parce que il y a un grand interdit de peur qu'on dira-t-on. Et même dans les endroits cachés, on interdit. Là, ta question, Manu, est-ce que il n'y aurait pas maintenant une interdiction? Quelqu'un me voit maintenant porter les tefillines Shabbat. Il voit que je prends un stylo maintenant pour me gratter ou un crayon pour... enfin, on a dit que c'était gratter, ça peut pas, c'est pas intelligent parce qu'on peut se gratter avec les doigts. Mais disons, si j'ai une nécessité vraiment de l'ustensile, par exemple, je veux maintenant, mon fils ne voit rien avec mon doigt, il comprend pas ce que je veux lui montrer, je vais avec un crayon pointu, comme ça, je vais lui montrer où il doit lire, d'accord? Je vais montrer les points. Aleph avec un point dessous, ça se lit I. Alors, je montre le point I, d'accord? Alors, tu peux prendre quoi? Fourchette, va monter le point avec la fourchette, le boss comprend, il voit 4 points, il sait pas de quoi tu parles, d'accord. Un couteau pointu, ouais, mais ça lui fait peur. Prends un crayon, okay. Des fois un couteau, c'est un peu ennuyeux, d'accord, tu vas prendre un crayon. Tu as un autre exemple, quelqu'un prend maintenant un marteau, voilà, pour casser une noix. Un marteau, c'est interdit, c'est pour que c'est Shabbat. Il va dire, j'ai vu le Rav Shaya, maintenant tu faisais un marteau Shabbat. Ok, alors, ou Chazal ont interdit, à cause de ce qu'on dira-t-on, ils ont interdit. Et lorsqu'ils n'ont pas interdit, les Chazal considèrent qu'un juif normal doit connaître les lois de Mouktsé. Parce que c'est pas une loi, c'est pas comme les lois d'égorgement, où c'est une fois tous les 40 ans qu'on doit savoir comment égorger un animal. Ça ne nous concerne pas en gros. Par contre, Mouktsé, je crois qu'il n'y a pas de loi Shabbat qui nous concerne le plus. Parce qu'on est sans cesse, on est face à des objets qu'on doit savoir est-ce qu'on a le droit de les porter, oui ou non. Donc un gosse, dès qu'il a 4 ans, juif normal, d'accord, qui est éduqué dans une maison juive, il sait déjà qu'est-ce qui est moussé, qu'est-ce qui n'est pas moussé, et comme je suis en train de faire maintenant, il doit connaître les lois. On continue. Qu'est-ce qui se passe si les tefillines sont maintenant sur le talit? Je viens Shabbat matin mettre mon téléphone à la synagogue, et je vois, oi oi oi, le tefillin est sur le talit. C'est un problème. Alors si j'ai les moyens de prendre le talit et faire en sorte que le tefillin... pardon, on va dire le sac qui est debout, je peux prendre le talit comme ça, que le tefillin, il reste plus ou moins, il va enfin, on peut faire tomber le sac de tefillin, mais on peut faire de façon qu'il je sors le talit sans que le tefillin tombe, il glisse comme ça un peu, là il n'y a pas de problème. Mais si le talit est comme ça, le tefillin est vraiment dessus, là j'ai pas le choix. Donc on avait vu qu'un cliché marteau est sourd, un ustensile dans lequel est interdit de Shabbat, j'ai le droit de le bouger si j'ai besoin de sa place. J'ai besoin de sa place. J'ai besoin de prendre le talit qui est dessous. Donc il n'y a aucun problème. Tu prends le fil avec les mains, tu mets de côté et tu prends le talit. Je rappelle aussi que chaque fois qu'on autorise l'utilisation d'un ustensile dont l'utilisation est interdite de Shabbat, normalement, tel que ce dont nous parlons maintenant, tefillin, marteau ou crayon, si on l'a pris de façon permise dans la main, parce qu'on a besoin de lui pour de façon permise ou de sa place, on a le droit de le tenir dans la main et de le porter à l'endroit où on veut, il n'y a aucun intérêt de ne pas juste de le lâcher immédiatement. Oui, ta question. Alors, ça, je dis, si le tefillin glisse un tout petit peu sans qu'il tombe, il n'y a pas de problème. Et s'il va faire boum comme ça, ça ne va pas. D'accord, on n'a pas... Ouais, sans aucun problème. Non, aucun chignon, tu peux le prendre avec les mains, normalement. Tov, Baruch HaShem, on finit maintenant la première classe de Mouktsé qui était... Oui. Ah, c'est juste, très bien. Si quelqu'un maintenant trouve le tefillin... dans la poubelle ou dans la rue et les chats sont en train de renifler, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, d'accord, un endroit où les tefillines seront mis en situation de non-respect des tefillines, il n'y a aucun problème à les prendre et à les amener chez soi, à la maison. Attention, bien sûr, on parle maintenant d'un endroit où il y a un hérouf. S'il n'y a pas de Hérouve, alors il faudra le porter de façon différente en s'arrêtant tous les 2 mètres. Quoi qu'il en soit, donc, si maintenant on trouve l'etphiline dans un endroit non respectable pour l'etphiline, il y a un risque, c'est extrêmement sain l'etphiline. L'etphiline, il y a 21 fois, dans chaque film, il y a 21 fois le nom de Dieu. D'accord? C'est une chose extrêmement sainte, l'etphiline. Donc, si c'est un endroit non respectable, on aura le droit de Shabbat de les prendre. L'inter de Moukse, là, il est aboli par respect pour les tfilines. Baruch HaShem, on finit en cela. Donc, la première classe de sorte de choses Moukse, c'est Kli, Shem Larto, Lissou, un ustensile dont de toute façon est interdite. On passe à la deuxième qui est une chose qui est interdite. Mahmat Hesron Kis. Mahmat à cause, Hesron d'un manque, Kis de la poche, c'est-à-dire un manque de pécunier, d'accord? Et ici, une perte pécuniaire. De quoi il s'agit? Chaque objet qu'on n'utilise pas, si ce n'est pour son utilisation habituelle, de peur qu'il se casse ou qu'il s'abîme. Par exemple, j'ai maintenant un magasin où je vends certains articles. C'est clair que ces articles doivent être neufs. Je ne vais pas utiliser ces articles-là. Ces articles sont à la vente. Et ce sont des choses que je fais attention, garde leur aspect neuf, prends un livre, d'accord, un livre, je ne veux pas maintenant Shabbat, je prends même un de, c'est mon magasin, d'accord, je ne peux pas prendre un livre qui est à la vente maintenant, le prendre chez moi, pendant Shabbat je vais au magasin, ou bien on va dire chez moi j'ai un stock maintenant de livres, et alors je prends le livre maintenant et je commence à étudier dedans ou à lire dedans, parce que ce livre-là, moi dans ma tête, je l'ai maxé, c'est-à-dire je l'ai mis de côté pour la vente. Et si je vois un nom de motion culture, je dis attention, attention, t'es en train de me faire perdre de l'argent, d'accord. Donc un calibre, c'est une chose qui n'est pas moussée, là dans ce cas, elle devient moussée. Idem, si je compte donner cela en cadeau à quelqu'un, d'accord, il peut rester neuf. Ainsi, chaque objet qu'on n'utilise pas parce que il est pour la vente ou donné en cadeau, sera interdit. De même, des objets dont l'utilisation est interdite de Shabbat, donc comme cliché marteau leissou, mais dont la seule utilisation est l'utilisation pour laquelle ils ont été créés. Par exemple, un ordinateur portable. D'accord? À quoi sert un ordinateur portable? Si ce n'est sa fonction d'ordinateur portable. Je ne vais pas l'utiliser maintenant pour autre chose. Pas pour casser des noix, pas pour montrer à mon fils où lire, pas pour me gratter, pas pour, d'accord? Il n'y a aucune fonction autre qu'on va donner à un ordinateur portable que celle qu'il a. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui est délicate, une chose qui a de la valeur, et donc on le bouge, enfin on le bouge que pour son utilisation habituelle qui est faire l'ordinateur, chose qui est interdite pendant Shabbat. Donc il devient mouxé. Des feuilles, tout bêtement. Des feuilles qu'on a... Alors, je pense qu'ils disent des feuilles pour écrire. Aujourd'hui, les feuilles pour écrire, c'est pas forcément mouxé parce que les gens l'utilisent aussi pour du pliage, pour des choses qui sont permises. On peut faire des pliages Shabbat. Pas le droit de faire des dessins, d'écrire. Ouais, on a droit de payer une feuille, je sais pas tout. Alors, mais si maintenant quelqu'un, il a maintenant son, on va dire, il a pris des feuilles, spécialement maintenant pour lui, ça c'est pour Chidushé Torah, pour ce qu'il veut écrire, pour son business, d'accord, avec la feuille en tête, n'importe. Des choses que lui maintenant, ça c'est pas pour faire des pliages. S'il voit maintenant ses enfants qui a pris de ses feuilles pour pliage, il sera pas content, d'accord. Ces feuilles-là deviennent mouktsé. C'est clair. Je donne quelques exemples pour vous donner une image. Un tableau. On a mis à la maison, d'accord. C'est pas une raquette de tennis, d'accord. Un bibelot, un bon bibelot qui a de la valeur. Une grosse statue, d'accord. Tout ce qui est les papiers où il y a dessus les comptes, les factures, les contrats. D'accord. Toutes ces choses-là, c'est des choses. Est-ce que je dois lire un contrat Shabbat? Non. Est-ce que je dois lire mes factures? Non. Ça, c'est une interdiction Shabbat de lire ces choses-là. Vu que donc leur fonction est interdite Shabbat, et je n'utilise pas ça pour autre chose, parce qu'après maintenant, son contrat d'appartement commence à faire du dessin avec, d'accord? C'est une chose qu'il garde avec son précieuse. Donc, son Moukse Mahman Tresron Kis. Chaque instrument dont l'utilisation est précise et pointue, d'accord? Là, la Halacha donne comme exemple, c'est pas tout le monde, mais en tout cas, un couteau, dégorgeur rituel, chose qui a de la valeur, qui doit rester extrêmement, sans aucunement touché, d'accord, faut que la lame soit tout à fait parfaite, En plus, ça l'embêterait de voir maintenant que quelqu'un tue son couteau de sa femme, tout où elle vient, et qu'on se fera salade avec le couteau des gorgeurs. Il va hurler. Idem, un couteau de Brit Mila. Il est mouxé. On verra son attente aujourd'hui. Comment fait le Moël pour faire une Brit Mila Shabbat? Comment il fait pour utiliser le couteau alors que le couteau, il est mouxé? Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme instrument de pointe? Tout ce qui est les chaînes IFI. C'est une belle chaîne IFI maintenant. Quelqu'un utilise-t-il une chaîne IFI pour autre chose qu'écouter de la musique? C'est rare qu'on s'assied sur la chaise IFI, d'accord? Donc, ta bouffe, tiens, prends la baffe, assieds-toi dessus. C'est pas une chose, c'est une baffe de bonne qualité, on le fera pas, d'accord? Chaque chose de ce type-là, donc, l'utilisation, elle est précieuse, on a peur qu'elle se gâte, alors, il devient mouxé. Une moto. Tu vois maintenant des enfants qui sont sur ta moto, Shabbat, en train de s'amuser. Descends de ma moto, d'accord? C'est une chose que tu as peur qu'elle soit mise, qu'elle soit gâchée. Ton billet d'avion. D'accord? Valeur. Même le petit billet pour le bus. D'accord? Je ne sais pas, je cherche pour autre. Personne n'utilise son billet de bus pour autre chose que prendre le bus. D'accord? C'est une valeur monétaire. D'accord? Une chose à laquelle on fait attention. Tous les ustensiles, sont offerts, un scribe, d'accord, la plume, tout très précis, le claf, le parchemin sur lequel écrit, l'encre, une machine à coudre, le tissu, un tissu, quelqu'un, ta femme a acheté un beau tissu maintenant pour faire ça pour une robe, toi tu viens, tu peux faire des tatatayes dans le tissu de, d'accord, problème diplomatique grave, d'accord, donc toutes ces choses-là qui sont. On comprend le principe, d'accord? On le met de côté parce que c'est une chose qui n'est que pour la chose pour laquelle elle a été achetée. On fait attention de l'utiliser pour autre chose, devient mouktsé. Là, c'est un mouktsé qui est beaucoup plus grave. On n'a pas le droit de l'utiliser pour aucune, absolument aucune chose. D'accord? Même si on a besoin de sa place, même si on a besoin de lui-même pour notre utilisation, on n'a pas le droit d'utiliser. À plus forte raison, si c'est pour le protéger qu'il ne soit pas volé, ou qu'il soit pas sous la pluie ou sous le soleil et gâté ainsi. Quelqu'un, il a oublié sa hi-fi sur le balcon, Shabbat, et tout d'un coup, il se met à pleuvoir. Alors, la seule solution qu'il a, c'est les tilsouls de mouxé. Le contrôle de mouxé permet ce qu'on avait étudié les dernières fois, où il prend, par exemple, voilà, j'ai un verre maintenant plein d'eau chaude, d'accord? Alors, je peux le prendre comme ça. Vous voyez que je fais? Ça, c'est permis. Pas de problème. Je peux pousser avec le doigt de la main. La chaîne IFI, ça va. Mais je ne peux pas maintenant prendre un autre objet, la clé, et pousser la chaîne IFI. On a vu cette critique ou ça, on n'a pas le droit de le faire pour une chose mouxée, on a le droit de le faire pour une chose qui n'est pas mouxée, etc. Attention, si jamais elle est branchée, et puis il y a un petit voyant lumineux indiquant qu'elle est branchée, alors tu fais le kadish sur ta IFI, c'est terminé, tu n'as absolument rien à faire. D'accord? C'est clair qu'on ne peut pas les brancher, aucun moyen, pas dire à un enfant de débrancher, rien du tout, c'est mort. La couvrir. Très bien. Très bien, on a parlé de cela déjà. Alors, est-ce que je dois maintenant vite amener un plastique comme ça pour mettre sur le... Alors, on avait vu qu'on n'avait pas le droit, Shabbat, de prendre... On avait le droit, Shabbat, de prendre une grosse assiette, pour la mettre sur un œuf qui était né Shabbat. Un œuf qui est né Shabbat, il est moussé. J'ai le droit de le mettre, mais à condition expresse de ne pas toucher l'œuf. Pourquoi? Marloc, est discussion en tes qu'il y en a qui disent, le porc, que je vais bouger l'œuf. Et dans ce cas-là, j'ai le droit de mettre le plastique sur la IFI, parce que la IFI ne va pas bouger quand je vais mettre au-dessus du plastique. Donc, on dit non. Même si le mouxé ne bouge pas, alors j'ai pas le droit de le toucher même si c'est pour lui que je le touche. Or là, tu le touches, bien que par l'intérieur de la plastique, ça change rien, vu que ici, maintenant, tu le touches pour lui-même, pour qu'il soit pas, gâté par la pluie, il y aura un problème. On a vu que c'était une marloquette. Les Saradim sont plus Marmerim, les Ashkenazim sont plus Mekilim, donc les Saradim prennent plus la vie sévère, comme ça il semblerait que c'est la vie de Maran, le Rama dit que c'est permis, donc mieux vaut ne pas le faire, mais en cas de nécessité très grande, alors on pourra quand même le faire. Et je pense que pour la FI aussi, donc ici pour Chatatrak, c'est un cas de nécessité majeure, ça coûte très cher, on pourra le faire. Alors, si maintenant la chaîne IFI elle se bloque Shabbat, c'est une question qui ne concerne pas Mouktsem, mais tu me réponds, tu poses la question, tu réponds rapidement, d'accord? Elle commence à faire la musique à fond Shabbat, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éteindre, je peux faire quelque chose, je peux rien faire. Même si maintenant elle se met tout à coup, tu l'as programmée, t'as oublié de la programmer pour 8 heures du soir pendant qu'elle douche, tac, tout à coup, t'as Led Zeppelin, d'accord, à fond la caisse dans le quartier orthodoxe, d'accord. Elle est programmée pour 10 heures à venir, d'accord. C'est un problème. Une fois j'avais, j'étais encore jeune, je voulais en voiture comme ça, j'écoutais de la musique assez fort, d'accord. La musique juive orthodoxe, mais bien rythme et tout ça. Et j'avais la flemme, quand je j'arrêtais ma voiture, j'avais la flemme d'éteindre la Wi-Fi et après éteindre la voiture. J'éteignais la voiture et d'un coup, tout électrique s'éteignait, d'accord. Bien, mon cousin qui est dans mon bâtiment Shabbat me dit, il y a un problème d'urgence avec sa femme, la prendre à l'hôpital, est-ce que je peux prendre la voiture? Je dis, pas de problème, vas-y. Et en voiture, là, je me suis rappelé que la Wi-Fi, lui, il vient, il met le truc de... comme ça, la musique à fond Shabbat, d'accord. Lui, il a même pas prendre, il a fait pas qu'il a éteint. Non, normalement, il aurait dû aller à l'hôpital avec la musique à fond. D'accord. C'est vrai que c'est un peu drôle. D'habitude, ils ont envoyé le voiture dans le 14 orthodoxe Shabbat, on sait que c'est pour une urgence. Jamais vu encore le truc qui roule en voiture avec Mordechai Ben David, pour avoir pris la fonte comme ça dans la voiture. Mais il aurait dû faire ainsi. D'accord? On n'a pas le droit d'éteindre parce que ça me dérange. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans des cas, c'est vraiment parenthèse, hein, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si, par exemple, il y a une sirène de voiture, des fois elle est bloquée toute la nuit, ça rend tout le monde dingue. Ou bien, il y a, comme ça, c'est un cas plus rare, d'accord, ou quelqu'un, ça va faillir, elle est bloquée. Alors, on a toujours le moyen de passer par un goy en demandant un ange de cela, on fera les lois qui concernent cela ultérieurement. Mais s'il n'y en a pas dans le quartier, alors il y a un moyen très simple. Mais rechercher, et dans le monde orthodoxe, c'est très, très, très fréquent, on recherche proche de la voiture ou de la Wi-Fi une femme qui vient d'accoucher. Une femme qui vient d'accoucher, elle est en guédère de Pikouar Nefesh. Ou quelqu'un qui sort d'une opération maintenant, il est en situation où il est absolument nécessaire qu'il dorme. Et s'il ne dort pas la nuit, il y a vraiment un danger pour sa vie, d'accord? Alors là, il n'y a aucun problème, il y a une mitzvah pour pouvoir effet, je vais éteindre la sirène ou la ifi. Je reviens maintenant sur Mouxé Mahmad Hesron Kis. Si on a un objet très précieux, un ustensile, qu'on utilise que pour une seule utilisation, celle pour laquelle il a été créé. Mais cette utilisation, elle est permise Shabbat. Il n'y a aucun problème, ça s'est permis. Par exemple, les bijoux. D'accord? Tu as le diamant de la reine d'Angleterre, d'accord? Une bague extraordinaire, valeur énorme. Fais attention à cela. Le cultivation, c'est quoi? C'est pour le porter sur le doigt pour plaire, d'accord? C'est une chose qui est permise à faire Shabbat, donc on peut porter tous les bijoux Shabbat, il n'y a aucun problème. Chaque ustensile dont l'utilisation est permise. Un microscope. D'accord? Ce que j'ai droit maintenant, c'est pas un microscope électronique, un microscope qui fonctionne avec la lumière du jour, d'accord? Quand je veux Shabbat, regardez au microscope. Je le prends, il n'y a aucun problème. L'utilisation du microscope, elle est permise. Bien que personne n'utilise un microscope pour casser des noix ou autre chose, il n'y a pas tellement d'utilisation autre que regarder dans le microscope, c'est permis. Un télescope, pour un arbre qui dit, on peut, c'est permis de jouer, de jouer, d'accord? Donc, au télescope, il appelle ça astrolabe, d'accord? C'est un arbre, regardez un astrolabe pendant Shabbat. Des jumelles. Et regardez aux jumelles Shabbat, aucun problème. Quoi, régler, oui, il n'y a aucun problème, c'est bon. C'est la façon d'utiliser. Pas pire que de régler combien de vin tu veux mettre maintenant dans ton verre, d'accord? Combien de coca tu veux mettre dans ton verre. Donc, tout cela est permis, à moins que, comme on parle auparavant, ces objets-là sont là pour la vente. Si maintenant tu as des bijoux qui sont pour la vente, d'accord, tu ne peux pas Shabbat l'utiliser. Ça, c'est déjà, c'est mis de côté, c'est pour la vente. Ou pour cadeau, idem. La nourriture. Il n'y a aucune nourriture qui soit interdite, même si la nourriture est maintenant destinée à la vente, elle est permise. Parce que quelqu'un qui a un magasin de légumes, d'accord, bon, s'il a faim, ben, il prend son légume, il le mange, d'accord, il ne va pas raconter la nourriture pour autre chose que la manger. Ce n'est pas qu'il va gâter ici, il le prend pour manger, terminé. Donc chaque nourriture, chaque personne qui a chez soi la nourriture, même en stock, d'accord, il y a toujours l'éventualité. Quelqu'un, il vend des bouteilles de vin de grande classe, d'accord? Ben, des fois, il s'ouvre une petite bouteille comme ça pour un kim, d'accord? Il s'ouvre une bouteille pour lui aussi, ça peut arriver. Il reçoit quelqu'un de très honorable chez la maison, son père, un très très grand rabbin qui est honoré. Écoutez, vous êtes là, j'ai une bouteille spéciale que j'ai pour la vente, là, pour vous. Alors, tout ce qui est maintenant nourriture est permis, n'est jamais, jamais mouktsé. Le seul cas de nourriture qui est mouktsé, il y en a deux. La matzah, on l'utilise le soir de Pessah. Soir de Pessah, faut manger le Lechem Oni, du pain pauvre, D'accord? Pourquoi? Parce que le pauvre n'a pas le temps de faire lever la patte. Et en Égypte, nos ancêtres étaient pauvres, parce que l'esclavage n'avait pas le temps de faire lever la patte, il avait très faim, donc il n'avait pas le temps de faire lever la patte et manger ce pain-là. Aujourd'hui, on dit en rigolant, c'est le pain des pauvres. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu achètes la matzah, tu es pauvre. Parce qu'aujourd'hui, le kilo de matzah, il coûte le bon 400, presque $50 ici en Israël. D'accord? Ça fait donc 40 euros, une fortune, pour pas grand-chose. D'accord? Donc le pain, il vaut une fortune. Donc on dit, c'est un pain des pauvres. Pourquoi je dis ça? Parce que, en aucun cas, la matzah qu'on a pris, les matzahs Shmoura, d'accord? Il faut une matzah qui, depuis la Trina, au moins depuis que ça a été moulu, il faut faire très attention que ça n'a pas touché de l'eau, etc. C'est une matzah qui a une grande valeur, et si je vois mon gosse jouer avec ça avant la fête du Pessah, ça risque de m'énerver, d'accord? Parce que c'est une chose qui a beaucoup de valeur. Donc, si on a un certain Shabbat avant Pessah, cette matzot-là, bien que c'est une nourriture, c'est clair que personne au monde peut venir maintenant, le plus grand rabbin du monde, je parle maintenant de la matzot de Pessah, d'accord? Tout ça, il devient, on sait, par contre, très idem, ça, on parle d'un Shabbat qui est la veille de Pessah. Le soir de Pessah, c'est pas moukhté, on va le manger, c'est clair. Deuxième chose, un etrog. L'étrog, c'est quelque chose qui se mange, qui est bon, d'accord, surtout en confiture, mais même on peut le manger cru, les vrais étrogs yéménites, d'accord, se mangent comme ça, c'est bon à manger, c'est une nourriture, mais maintenant c'est l'étrog que j'achète pour la fête. C'est très délicat. Alors, il y a certains étrogs, ils ont le pitam, la petite pointe, d'accord, si ça tombe, c'est cuit, l'étrog il est mort, d'accord. Je vois maintenant mon fils jouer au rugby avec l'étrog, d'accord? J'avais ce risque de faire une dépression nerveuse. C'est extrêmement dangereux, d'accord? Donc, c'est ça. L'étrog, on met dans un endroit que personne ne touche, rien, tout. Bien que c'est de la nourriture, vu qu'il est mouktsé, il est destiné à la fête de Sukkot et rien d'autre, donc il est mouktsé. Bon, je vois qu'il est l'heure, alors, on arrête ici et on reprend avec l'aide de Dieu la prochaine fois. Baruch Adonai, Amen, Amen.